Le millefeuille revisité. Bonjour et bienvenue sur l'autre radio, en compagnie de Christine. Alors voilà, nous abordons la 20e et dernière édition du millefeuille revisité. En effet, vous ne retrouverez pas ce rendez-vous mensuel dans la grille des programmes de la rentrée, car j'ai décidé de mettre fin à cette belle aventure, non pas que j'ai épuisé l'inventaire des livres que j'aime, loin de là, non, tout simplement pour des raisons personnelles. Alors pour ce dernier millefeuille, j'ai décidé de mettre à l'honneur la poésie, et là, vraiment, si on m'avait posé la question « Quel recueil de poésie emporteriez-vous ?» sur une île déserte, j'aurais pu répondre à cette question sans trop d'hésitation. Autant pour un roman, je serais bien incapable de choisir le roman que je classe au-dessus de tous. Autant pour la poésie, j'aurais dit le recueil « Paroles » de Jacques Prévert. Non pas que d'autres n'auraient pas leur place dans une valise, mais Prévert est sans doute le poète qui parle à tous et que je lis le plus fréquemment, dans des lectures à voix haute, que ce soit pour des enfants ou des adultes. Sa langue est simple, vivante, et si tout n'y est pas tendre, j'en retiens surtout la fantaisie, l'humour et l'amour présent.
Est-ce que la télévision française vous paraît prêter suffisamment d'importance à la poésie?
Bon, ça, je vous dirais une chose, c'est pas une chose que ce que la télévision peut penser de la poésie ou prêter attention à la poésie, ça c'est faut plutôt demander à Garcia Lorca ou Henri Michaux ce qu'ils pensent de la poésie. Ils disaient, ils ne savaient pas ce que c'était, n'en savaient rien exactement, parce que c'est un mot qu'on met à toutes les sauces, vous comprenez, par exemple. Alors ça c'est pas intéressant, vous comprenez, et puis c'est un mot qui devient la mode en poésie. Avant, un poète, on dit c'est un rêveur, hein, comme on disait dans un philosophe, on disait, oh, un philosophe, un livre s'en fait pas. Aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Le poète, ça court les rues, et tout le monde court les rues, et je vois pas pourquoi il y aurait une importance capitale de ce qu'on appelle la poésie, puisqu'elle est partout. Elle est aussi bien dans un film que n'importe où, et pas spécialement écrite. C'est-à-dire un type qui écrit des poèmes, quelqu'un qui écrit des poèmes, des fois c'est beaucoup moins bien qu'un type qui est saoul comme une vache et qui dans la rue des choses extraordinaires. Et ça dépend, vous comprenez. Alors, les gens aiment telle poésie, ou pas, ou on dit vous êtes poète populaire, ou vous êtes le grand poète, ou petit poète, c'est toujours la grandeur, hein. Alors, la grandeur, hein. Moi, ça m'intéresse pas beaucoup, moi j'ai pas fait exprès, moi, de faire des poèmes. Les gens disent c'est pas un poète, l'autre dit c'est un poète. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse exactement?
C'est donc Jacques Prévert que nous venons d'entendre avec cet extrait d'une émission de Radio-Canada alors qu'il répondait aux questions de Fernand Seguin le 21 juin 1966. Mais sans plus attendre, je ne vous propose pas d'écouter le tout début de Paroles, car le recueil de Prévert s'ouvre sur un de ses poèmes les plus longs. Tentative de description d'un dîner de tête à Paris-France. Je n'aurais pas pu vous le lire en entier, mais je vous invite à le découvrir par vous-même et vous propose plutôt d'écouter un poème qui s'adresse à toutes les oreilles, petites ou grandes, un poème dédié à Elsa Henriquez, artiste peintre et illustratrice argentine qui a travaillé avec Prévert. Poème que j'affectionne particulièrement pour faire le portrait d'un oiseau. Pour faire le portrait d'un oiseau, peindre d'abord une cage avec une porte ouverte. Peindre ensuite quelque chose de joli quelque chose de simple, quelque chose de beau, quelque chose d'utile pour l'oiseau. Placez ensuite la toile contre un arbre, dans un jardin, dans un bois ou dans une forêt. Se cacher derrière l'arbre sans rien dire, sans bouger. Parfois, l'oiseau arrive vite, mais il peut aussi bien mettre de longues années avant de se décider. Ne pas se décourager. Attendre. Attendre s'il le faut pendant des années, la vitesse ou la lenteur de l'arrivée de l'oiseau n'ayant aucun rapport avec la réussite du tableau. Quand l'oiseau arrive, s'il arrive, observez le plus profond silence. Attendre que l'oiseau entre dans la cage, et quand il est entré, fermez doucement la porte avec le pinceau. Puis, effacez un à un tous les barreaux, en ayant soin de ne toucher aucune des plumes de l'oiseau. Faire ensuite le portrait de l'arbre, en choisissant la plus belle de ses branches, pour l'oiseau. Peindre aussi le vert feuillage et la fraîcheur du vent, la poussière du soleil et le bruit des bêtes de l'herbe dans la chaleur de l'été. Et puis, attendre que l'oiseau se décide à chanter. Si l'oiseau ne chante pas, c'est mauvais signe, signe que le tableau est mauvais. Mais s'il chante, c'est bon signe, signe que vous pouvez signer. Alors, vous arrachez tout doucement une des plumes de l'oiseau et vous écrivez votre nom dans un coin du tableau. Sur mon étagère de poésie, les livres de Jacques Prévert se situent entre ceux de Francis Ponge et de Raymond Queneau. Alors, est-ce que Prévert aurait apprécié ce compagnonnage d'étagère? Ces deux-là sont des contemporains de Prévert avec des liens assez étroits dans leur démarche. Pour ce qui est de Francis Ponge, poète auteur du Parti pris des choses, dont l'écriture est réputée plus difficile, il a beaucoup écrit sur les objets du quotidien, avec une approche parfois presque scientifique. Et s'il a flirté un moment avec le mouvement des surréalistes, il est resté à distance du mouvement. Ses sujets d'écriture l'éloignent également des surréalistes qui incluent le rêve et l'inconscient dans le processus de création, alors que Ponge s'attache à la matérialité des choses. C'est, comme le dira Jean-Paul Sartre, le poète des objets. Mais avec Prévert, il partage la même attention aux animaux qui sont souvent à l'honneur dans leur répertoire. Pour ce qui est de Queneau et de Prévert, leurs affinités sont encore plus grandes. Leur style, leurs idées, leurs univers sont très proches et c'est très tôt qu'ils se côtoient chez les surréalistes. Mais si on avait demandé à Prévert de choisir ses compagnons d'étagère, sans doute aurait-il cité Alexandre Dumas père, Victor Hugo, Émile Zola et Octave Mirbeau, qu'il découvre dans l'enfance grâce aux livres de son père. En grandissant, il devient un lecteur assidu, avec des goûts éclectiques, allant de Proust à Beckett, en passant par des auteurs plus populaires, comme Eugène Sue et Paul Féval. Avec le groupe des surréalistes, dont le but était de libérer l'imagination, d'apporter un souffle de liberté avec le matériau des rêves et de l'inconscient, il participera à la découverte ou redécouverte de certains poètes comme Rimbaud, Lautréamont ou Alfred Jarry, ce dernier étant jusque-là davantage connu pour Ubu que pour sa poésie. Comme beaucoup de poètes de son époque, Prévert a été influencé par la modernité du style d'Apollinaire avec son recueil « Alcool » et par Blaise Cendrars avec son long poème « Prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France » qui a aussi offert de nouveaux horizons d'écriture. Prévert aurait aussi cité Georges Ribemont de Saigne comme compagnon de poésie et ami. Ce dernier, qui a fréquenté le mouvement Dada, puis celui des surréalistes, dirigera la revue Bifur, qui publiera des poèmes de Prévert entre 1929 et 1931. Dans les auteurs contemporains de Prévert et appréciés par lui, on peut citer encore André Breton, avec lequel les relations seront en dents de scie, mais dont Prévert reconnaissait une place importante dans la poésie française. Paul Éluard et Robert Desnos, qu'il fréquenta également chez les surréalistes, ce dernier, qui pratiquait l'écriture sous hypnose et qui avait un univers poétique proche de celui de Prévert dans sa fantaisie. Toujours par le biais des surréalistes, il côtoiera également Aragon dans les années 20. Mais dans la jeune génération, celui dont il se sentira proche, c'est Boris Vian. Ami et voisin de palier au 6 bis, cité Véron, dans le 18e arrondissement de Paris, Prévert aime la poésie de Vian, notamment des poèmes comme « Qu'il soit minuit, qu'il soit midi », paru dans le recueil « Quand il l'aime, engelé ». On connaît Prévert, bien entendu, pour sa poésie, puisqu'on la découvre généralement tout petit sur les bancs de l'école. Prévert, c'est aussi l'auteur de chansons connues dans le monde entier. Mais c'était aussi un dramaturge, un scénariste et un artiste passionné de collage. Jacques Prévert est né le 4 février 1900, à Neuilly-sur-Seine, du temps où c'était une banlieue populaire. C'est sa mère, de tempérament joyeux, qui lui apprendra à lire dans les contes de fées. Son père est un lecteur également, mais il a une nature plus fantasque et plus triste. Alors que Jacques n'a que 6 ans, c'est lui qui dissuadera son père de mettre fin à ses jours. C'est encore lui, enfant, qui accompagne son père dans ses visites aux familles pauvres, dans le cadre de la brigade des inspecteurs de l'Office central des pauvres à Paris. Jacques a 2 frères, Jean, son aîné, et Pierre, plus jeune de 6 ans. Prévert quitte l'école à 14 ans pour être employé de grands magasins, au Grand Bazar, puis au Bon Marché. Il a peu de goût pour le métier et il pratique ce qu'il appellera le détournement d'objets. Son comportement fera qu'il sera gentiment remercié. C'est à partir de 1914, lorsque la guerre éclate, que le sentiment de haine contre la guerre et tout ce qui engendre la mort naît en lui. Toute sa vie, il restera un pacifiste convaincu. Et c'est pourtant avec le service militaire auquel il sera incorporé en 1920 qu'il fera 2 rencontres décisives. Celle d'Yves Tanguy, qui deviendra un des grands peintres surréalistes du siècle, et celle de Marcel Duhamel, qui partage avec lui l'amour des livres et du cinéma. Vu son peu de goût pour l'armée et ce qu'elle représente, on n'est pas étonné que dès son incorporation, il fera connaissance aussi avec les prisons de la caserne. Ainsi, à un capitaine qui l'interrogeait sur ses activités dans le civil, Prévert répondit « Je travaille avec mon père, mon capitaine. »« Ah, très bien, entreprise familiale. Et votre père, qu'est-ce qu'il fait ?»« Il travaille avec moi, mon capitaine. » Et c'est ainsi qu'il se prenait 8 jours de trou. En mars 2022, au terme de son service, il retrouvera ses amis Tanguy et Duhamel à Paris. Avec Tanguy, il découvre la Maison des Amis des Livres, la librairie d'Adrienne Monnier où l'on peut lire sur place et qui attire des habitués prestigieux tels que Paul Fort, Léon-Paul Fargue, Paul Valéry, Jules Romain et d'autres encore. C'est la vie de bohème qui commence pour Tanguy et Prévert. Ils seront hébergés dans une petite maison louée pour eux par Marcel Duhamel, qui lui travaille dans un hôtel. En 1925, ils rencontrent Robert Desnos et le peintre Malkin et les invitent à venir dans leur location où progressivement tous les membres du groupe surréaliste s'y retrouveront pour leur réunion. Benjamin Perret et Raymond Queneau y seront également hébergés. Prévert partage beaucoup de points de vue avec les surréalistes. L'esprit de révolte, l'intérêt pour le rêve, l'insolite, le fantastique, l'inconscient, la volonté de retrouver la spontanéité de l'enfance et l'amour de l'amour. En 1928, il écrit son premier texte « Les animaux ont des ennuis ». C'est entre 1920 et 1930 que Jacques Prévert sent naître sa vocation d'écrivain alors que la poésie se réinvente. Dans ses thèmes du quotidien, elle se détache des règles de la poésie classique avec l'idée de faire, à l'image d'Éluard, une poésie pour tous. Des dissensions naissent dans le groupe surréaliste. C'est comme ça que Bataille, Léris, Queneau, Desnos et Prévert quittent le groupe. Jacques Prévert continuera sa route de son côté, mais il se réconciliera plus tard avec Breton. Entre 1932 et 1936, Prévert écrit des sketchs, des chœurs parlés, des pièces de théâtre pour le groupe Octobre, qui intervient dans les usines ou dans la rue en soutien aux ouvriers. C'est à cette période que le groupe aura ses habitudes au Café de Flore, puis aux Deux Magots. Après l'avènement du Front Populaire, fin 1936, le groupe Octobre se désagrégera. En mai 1946, alors que Prévert bénéficie déjà d'une certaine notoriété, paraît en librairie le recueil de poésie « Paroles ». C'est immédiatement un très gros succès. Après l'écriture et les scénarios brillants qu'il réalisa pour le cinéma, il se consacrera à d'autres créations, les collages, et collaborera à de nombreux ouvrages avec ses amis peintres, dessinateurs et photographes, comme Doisneau. En 1946, le poème de Jacques Prévert, « Les feuilles mortes », était mis en musique par Joseph Cosma pour le film « Les portes de la nuit » de Marcel Carné. La chanson fait un flop à sa sortie, alors que plusieurs années plus tard, après des détours aux États-Unis et une interprétation en anglais « Autumn Leaves » par Édith Piaf, elle connaîtra un triomphe international. Chantée par Cora Vauquer, Mouloudji, Yves Montand, Frank Sinatra, John Baez, jusqu'à Eric Clapton et Iggy Pop, on compte aujourd'hui plus de 600 interprétations différentes. Je vous propose d'écouter la version chantée par Nat King Cole, sortie en 1955.
The falling leaves drift by the window. The autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear old winter's song. But I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall. And soon I'll hear old winter's song. But but I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to fall,
le recueil « Paroles » paraît en mai 1946. Nous l'avons dit, c'est immédiatement un très gros succès, avec 5000 exemplaires vendus en une semaine. Les poèmes de Prévert ont sans doute apporté un vent de fraîcheur après les années de guerre vécues par la France. À sa sortie, on parle d'événements littéraires, car il touche à la fois un public populaire et un public plus cultivé. Victime de ce succès, le recueil sera réédité en 1947 avec 16 textes supplémentaires par les éditions du Point du Jour, maison d'édition à laquelle Prévert resta fidèle. Elle sera reprise par Gallimard qui, lui, réimprimera le livre à plusieurs reprises. Le succès de Paroles ne se démentira pas avec le temps puisque dans les années 1990, on atteignait le record de 3 millions d'exemplaires vendus. Paroles rassemble des textes écrits entre 1930 et 1940 qui avaient déjà paru dans des journaux ou avaient été diffusés sur les ondes ou mis en musique ou encore utilisés dans les films de Prévert comme « Je suis comme je suis » dans « Les enfants du paradis ». Un grand nombre de ces poèmes seront mis en musique par Joseph Cosma et interprétés à l'époque par Agnès Capri, Marianne Oswald, Juliette Gréco, les frères Jacques, Germaine Montero, Mouloudji ou encore Yves Montand. Paroles est une œuvre en apparence simple et limpide, mais elle est bien plus originale et complexe qu'il n'y paraît. À la rime, Prévert préfère jouer avec les sonorités. Il utilise un langage familier, voire l'argot, mais poursuit aussi un travail d'exploration et d'inventivité de la langue. Poèmes entre poésie et prose, ce sont souvent des récits, car Prévert aime raconter des histoires, et certains poèmes ressemblent à de petits films. Alors, scénettes, conversations, discours, chansons, petits films, chœurs parlés, il est difficile d'attribuer un genre précis à sa poésie. On y trouve des poèmes bon enfant consacrés aux oiseaux, l'animal préféré de Prévert, d'autres dédiés aux enfants, à l'amour, à l'art en général ou à certains artistes comme Picasso, Van Gogh et William Blake, en alternance avec des poèmes plus engagés, voire plus violents. On y retrouve sa haine pour la guerre, le clergé et la bourgeoisie. Le titre du recueil « Paroles », s'il est l'anagramme de « la prose », il représente aussi l'oralité, la conversation qui était chère à Prévert. Il dira d'ailleurs « Pour moi, vous savez, la poésie écrite, la poésie parlée, la poésie filmée, ça a toujours été la même chose. » Comment j'ai découvert ce livre ? Difficile de dater cette découverte car c'est depuis la plus tendre enfance que les poèmes tels « Le cancre », « Chanson des escargots qui vont à l'enterrement » ou « Pages d'écriture » et encore bien d'autres sont entrés dans mon univers. Un Prévert en entraînant un autre, l'enfance est passée aussi par son autre recueil « Histoire et d'autres histoires » paru en 1946 et son incontournable poème « En sortant de l'école », devenu un classique de la poésie française et une chanson interprétée par Yves Montand. À l'adolescence, j'ai pu découvrir le recueil en lui-même et par là même une autre poésie de Prévert, celle plus sombre ou plus revendicative. Aujourd'hui, sa poésie m'accompagne toujours, notamment dans les lectures à voix haute que je fais à l'attention des enfants ou des adultes. Au fil du temps, de poèmes en chansons et de chansons en films, le compagnonnage continue avec ce cher Jacques. Alors, pour illustrer à nouveau la poésie de Prévert, je vous propose d'écouter le poème « La pêche à la baleine » lu par Antoine, et juste après, nous écouterons Feu Chatterton, qui a repris en chanson le poème extrait de parole « Compagnon des mauvais jours ».
La pêche à la baleine, à la pêche à la baleine, à la pêche à la baleine, disait le père d'une voix courroucée à son fils Prosper, sous l'armoire allongée. À la pêche à la baleine, à la pêche à la baleine, tu ne veux pas aller ? Hé, pourquoi donc ? Et pourquoi donc que j'irai pêcher une bête qui m'a rien fait, papa ? Va la péper, va la pêcher toi-même, puisque ça te plaît. J'aime mieux rester à la maison avec ma pauvre mère et le cousin Gaston. » Alors, dans sa baleinière, le père tout seul s'en est allé sur la mer démontée. Voilà le père sur la mer, voilà le fils à la maison, voilà la baleine en colère, et voilà le cousin Gaston qui renverse la soupière au bouillon. La mer était mauvaise, la soupe était bonne, et voilà sur sa chaise Prosper qui se désole à la pêche à la baleine. Je ne suis pas allé, et pourquoi donc que j'y ai pas été ? Peut-être qu'on l'aurait attrapé, alors j'aurais pu en manger. Mais voilà la porte qui s'ouvre, et ruisselant en dos, le père apparaît hors d'haleine, tenant la baleine sur son dos. Il jette l'animal sur la table, une belle baleine aux yeux bleus, une bête comme on en voit peu, et dit d'une voix lamentable « Dépêchez-vous de la dépecer, j'ai faim, j'ai soif, je veux manger !» Mais voilà Prosper qui se lève, regardant son père dans le blanc des yeux, dans le blanc des yeux bleus de son père, bleus comme ceux de la baleine aux yeux bleus. Et pourquoi donc que je dépecerais une pauvre bête qui m'a rien fait ? Tant pis, j'abandonne ma part. Puis il jette le couteau par terre. Mais la baleine s'en empare, et se précipitant sur le père, elle le transperce de père en part. Ah ah ! Dit le cousin Gaston, ça me rappelle la chasse aux papillons. Et voilà. Voilà Prosper qui prépare les faire-part, la mère qui prend le deuil de son pauvre mari, et la baleine, la larme à l'œil, contemplant le foyer détruit. Soudain elle s'écrie « Et pourquoi donc j'ai tué ce pauvre imbécile ? Maintenant les autres vont me pourchasser en motogodille, et puis ils vont exterminer toute ma petite famille !» Alors, éclatant d'un rire inquiétant, elle se dirige vers la porte et dit à la veuve en passant « Madame, si quelqu'un vient me demander, soyez aimable et répondez. La baleine est sortie, asseyez-vous, attendez-la, dans une quinzaine d'années sans doute elle reviendra. »
Compagnon des mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit.
Bonne nuit.
Et je m'en vais, la recette a été mauvaise. C'est encore une fois de ma faute. Tous les torts sont de mon côté. Alors je m'en vais, j'aurais dû vous écouter. J'aurais dû jouer du canif. C'est une musique qui plaît.
Il aurait dû nous écouter.
Mais je n'en ai fait qu'à ma tête. Et puis je me suis énervé. Compagnon des mauvais jours, pensez à moi quelquefois. Plus tard, quand vous serez réveillé, pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé au bord de la mer. Les mauvais jours, les mauvais jours, les mauvais jours, compagnons des mauvais jours. Quand on joue du chien à poil dur, il faut ménager son archet. Alors je m'en vais, les gens ne viennent pas au concert pour entendre hurler à la mort. Et cette chanson de la fourrière nous a causé le plus grand tort. Compagnon, casquette, une, deux ou trois cigarettes dans le paquet et je m'en vais, je m'en vais. Compagnon, aimerais-je penser à moi quelquefois, plus tard quand vous serez réveillé, pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé au bord de la mer. Au bord de la mer. Les mauvais jours, les mauvais jours, les mauvais jours, les mauvais jours. Compagnons, les mauvais jours, que vous soyez-il bon. Les mauvais jours, les mauvais jours. Compagnons, les mauvais jours, que vous soyez-il bon.
Comme résonance à la poésie de Prévert, j'ai d'abord pensé à Queneau, mais de Queneau à Vian, il n'y avait qu'un pas, en poésie notamment. À l'instar de Prévert, Boris Vian a lui aussi eu beaucoup de cordes à son arc, pratiquées avec brio d'ailleurs. Pour Vian, c'est le jazz comme trompettiste et critique musical, l'écriture comme romancier, nouvelliste, scénariste ou traducteur. C'est un adepte d'Alfred Jarry et de pataphysique, et il est aussi poète et auteur-interprète de ses propres textes. La poésie et la chanson sont sans doute les deux genres qui relient Vian et Prévert le plus étroitement. Rappelons que Vian a écrit plus de 500 chansons. Et s'il est son propre interprète et a fait ses débuts de chanteur en 1955 aux Trois Baudets, d'autres chanteurs se sont appropriés ces textes avec talent, comme Henri Salvador, Mouloudji ou Serge Gainsbourg. Les textes de Boris Vian, où il exprime son anticléricalisme et son antimilitarisme, comme dans Le Déserteur, sont aussi des positions qui réunissent Vian et Prévert. Il faut ajouter, et ce n'est pas moindre, leur voisinage cité Véron, nous l'avons dit, et l'amitié qui les liait. Jacques Prévert écrira d'ailleurs un poème d'adieu à la mort de Boris Vian en juin 1959, poème qu'il dédiera à son épouse, Ursula Vian Kubler. L'acteur Jean-Louis Trintignant a lui aussi réuni Vian et Prévert avec grand succès entre 2011 et 2013 à travers son spectacle Robert Desnos, Jacques Prévert, Boris Vian, trois poètes libertaires. Alors, il était difficile de choisir entre poésie et chanson chez Boris Vian, mais mon choix s'est porté sur un poème écrit en 1954 et publié à titre posthume en 1966 dans le recueil « Chansons et poèmes ». Il s'agit de « L'évadé » ou « Le temps de vivre ». Le temps de vivre. Il a dévalé la colline. Ses pas faisaient rouler des pierres. Là-haut, entre les quatre murs, la sirène chantait sans joie. Il respirait l'odeur des arbres. De tout son corps, comme une forge, la lumière l'accompagnait et lui faisait danser son ombre. Pourvu qu'il me laisse le temps. Il sautait à travers les herbes. Il accueillit deux feuilles jaunes gorgées de sève et de soleil. Les canons d'acier bleu crachaient de courtes flammes de feu sec. Pourvu qu'il me laisse le temps. Et il est arrivé près de l'eau. Il y a plongé son visage. Il riait de joie. Il a bu. Pourvu qu'il me laisse le temps. Il s'est relevé pour sauter. Pourvu qu'il me laisse le temps. Une abeille de cuivre chaud l'a foudroyé sur l'autre rive. Le sang et l'eau se sont mêlés. Il avait eu le temps de voir, le temps de boire à ce ruisseau, le temps de porter à sa bouche deux feuilles gorgées de soleil, le temps d'atteindre l'autre rive, le temps de rire aux assassins, le temps de courir vers la femme. Il avait eu le temps de vivre. Une citation de Jacques Prévert. La poésie, c'est le plus joli surnom que l'on donne à la vie. Et puisque c'est la dernière du millefeuille, cerise sur le gâteau, je vous en offre une deuxième. Il y a sur cette terre des gens qui s'entretuent. C'est pas gai, je sais. Il y a aussi des gens qui s'entrevivent. J'irai les rejoindre. L'arbre et la forêt française de demain. Aujourd'hui, selon Brigitte Much de l'ONF, les forestiers sont confrontés à la nécessité d'adapter la forêt française face au changement climatique. Au niveau de la forêt publique, soit 25% de la surface forestière française, 300 000 hectares de forêt sont dépérissants, c'est-à-dire que la forêt n'arrive plus à se renouveler naturellement. Cela se traduit notamment par une moindre croissance des arbres et une mortalité plus grande. Aussi, le réseau Renecofor, qui comporte 102 parcelles forestières, a mis en place un suivi sur le long terme des espèces, complété par d'autres réseaux collectant des données et des outils de projection des climats. Tous ces éléments sont analysés par l'IGN. Plusieurs stratégies existent pour remédier à ce constat inquiétant pour nos forêts. La première, la plus simple, est pour certaines zones de ne rien faire, car les arbres en place continuent à se renouveler naturellement. La deuxième est de trouver des solutions locales en France ou en Europe avec des espèces existantes. On va choisir, par exemple, des peuplements qui se situent dans le sud-ouest et les introduire dans l'Oise. On parle ici de migration assistée. Ces espèces présentes en Europe ont évolué ensemble au moment des dernières glaciations et elles ont partagé les mêmes micro-organismes. La dernière solution, c'est ce qu'on appelle l'introduction, qui va consister à trouver dans le monde des espèces compatibles avec la zone géographique concernée. C'est le cas du cèdre de l'Atlas, de l'autre côté de la Méditerranée, lequel sera implanté à titre expérimental pour suivre son évolution avec l'écosystème qui l'entoure et éviter tout problème invasif, par exemple. Mais les forestiers ne pourront pas lutter seuls contre les effets néfastes du changement climatique pour aller vers une forêt résiliente. C'est toute la société qui doit s'engager dans cette démarche. Alors si vous souhaitez vous aussi soutenir les actions de l'ONF, rendez-vous sur leur site www.onf.fr. Et puisque ce millefeuille se referme aujourd'hui, voici quelques-unes des sources qui m'ont inspiré depuis 2 ans au sujet des arbres. Le hors-série du Monde, Atlas scientifique des arbres et forêts. Le très riche livre de Peter Wolben, La vie secrète des arbres. Et aussi le MOOC Arbres, proposé par l'Université virtuelle Environnement et Développement Durable, UVED, et que vous pouvez suivre gratuitement sur le site de France Université Numérique, www.fun-mooc.fr. À bon entendeur, salut! Peut-être nous retrouverons-nous sur ces mêmes ondes à l'automne, au détour d'autres feuilles. Qui sait? En tout cas, je tiens à remercier Antoine qui m'a accompagné dans les lectures du millefeuille, mais aussi Joël pour sa disponibilité, son aide, ses ficelles, son enthousiasme et sa bonne humeur. Lui qui a permis de diffuser ce podcast dans les meilleures conditions. Ainsi qu'un grand merci à toute l'équipe de l'autre radio sans qui cette émission n'aurait jamais vu le jour et à vous aussi, auditeurs. Merci.